le magazine des Nations Unies.
Une année difficile et complexe pour la RDC et pour la MONUSCO, avec l'aggravation de la crise, aussi bien au plan politique, sécuritaire qu'économique et humanitaire. La porte-parole de la mission onusienne l'a reconnue mercredi dernier. Vous suivrez Florence Marchal dans cette édition. Et puis l'échéance de la clause de cessation du statut de réfugié pour le Rwanda a été fixée au 31 décembre 2017. Mais voilà, selon l'UACR, environ 223 000 réfugiés rwandais vivent encore sur les territoires congolais, contre seulement 18 000 rapatriés volontaires à ce jour. Quel est le sort des réfugiés restants? Nous suivrons les explications du représentant régional assistant du UACR dans notre décryptage. Et puis 2 millions d'enfants malnutris en RDC en 2018, dont plus de 400 000 candidats à la mort. Nous sommes là dans le Kasaï, chiffre alarmant et à la fois dramatique. L'UNICEF et ses partenaires se mobilisent. La chef de nutrition à l'UNICEF RDC sera notre invitée dans quelques instants.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour à tous et bienvenue à cette édition du magazine des Nations Unies, la dernière de l'année 2017. 2017, justement, l'année a été difficile et complexe, aussi bien pour la MONUSCO que pour la République démocratique du Congo. C'est en tout cas ce qu'a fait savoir mercredi au cours de la conférence de presse des Nations Unies à Kinshasa, Florence Marchal, porte-parole de la MONUSCO. Alors je vous invite à suivre Florence Marchal dans ses propos recueillis par Honoré Missenga Kalala.
Nous avons vu dans ce pays une aggravation des crises, à la fois politiques, économiques, sécuritaires, humanitaire. Nous avons perdu des casques bleus, nous avons des collègues experts des Nations Unies qui ont été assassinés, des milliers de Congolais ont dû être déplacés en raison des conflits, d'autres Congolais souffrent de malnutrition sévère. Mais il est vrai aussi que les Nations Unies, la MONUSCO et les agences fonds et programmes des Nations Unies sont présents aux côtés des autorités congolaises et des populations congolaises afin d'apporter, dans la limite de leurs ressources disponibles, tout le soutien et le réconfort possible qu'on puisse apporter aux populations congolaises.
Une quarantaine des Congolais seront parmi les 15 000 ressortissants originaires de l'Afrique subsaharienne bloqués actuellement en Libye et pour lesquels l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, s'est lancée dans une opération de rapatriement sur base du volontariat. Jean-Philippe Chauzy, chef de mission de l'OIM en RDC, l'a révélé mercredi 20 décembre au cours de la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies et en marge de la Journée internationale des migrants célébrée le 18 décembre. Les propos de Jean-Philippe Chauzy recueillis par Honoré Missenga Kalala.
Nos équipes sur place en Libye font tout pour identifier les ressortissants congolais qui sont actuellement dans des situations extrêmement difficiles en Libye. Les informations que l'on a pour l'instant font état de quarantaine de ressortissants congolais actuellement toujours en Libye. Nous faisons tout pour les rapatrier. Ceci dit, il est important de souligner que ce rapatriement ne doit se faire que sur une base volontaire. Il faut donc que l'on puisse avoir accès à ces migrants qui sont dans des geôles, qui sont parfois des geôles clandestines, pour pouvoir déjà les identifier et obtenir leur assentiment pour un retour. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que ces migrants sont souvent sans document de voyage, n'ont pas de passeport. Donc il y a un travail que nous sommes en train de faire avec les autorités consulaires ici en RDC pour faire en sorte que ces ressortissants, qu'ils soient congolais ou autres, puissent obtenir des documents qui leur permettront de quitter le pays. Comme je l'ai dit auparavant, nous sommes engagés actuellement dans une opération de rapatriement de grande envergure. Nous sommes sur le point d'assister à peu près 15 000 ressortissants essentiellement originaires d'Afrique subsaharienne à rentrer au pays. Mais je tiens à préciser en fait que les ressortissants congolais en Libye, à notre connaissance, ne sont pas nombreux par rapport aux ressortissants venant du Sénégal, du Ghana, du Nigeria ou d'autres régions d'Afrique subsaharienne.
Autre nouvelle d'actualité de la semaine, le PNUD, Programme des Nations Unies pour le Développement, a remis mercredi dernier des équipements et matériels à l'administration de l'aménagement du territoire. Ce don entre dans le cadre du programme d'appui de la réforme de ce secteur. Jean-Pierre Elali Coco pour le reportage.
Je vous remets donc les clés de ce véhicule territorial.
C'est une Toyota de marque Prado Pimpant, neuve, que le docteur Kabange Numbi, ministre de l'aménagement du territoire et rénovation de la ville, a remis au secrétaire général de son ministère. Outre ce véhicule, 3 ordinateurs et onduleurs, 2 laptops, une imprimante, une photocopieuse et des consommables informatiques. C'est un don du PNUD dans le cadre de la réforme de l'aménagement du territoire financée par l'initiative des forêts du bassin du Congo. Étienne Dessouza, représentant du directeur pays du PNUD.
Les équipements et matériels que nous remettrons ce jour sont destinés à appuyer le fonctionnement de l'administration de l'aménagement du territoire et rénovation de la ville, mais également à améliorer ses capacités de collecte des données dans le cadre du programme d'appui à la réforme de l'aménagement du territoire.
Enfin, le secrétaire général de l'aménagement du territoire, l'ingénieur Georges Freddy Lusambula, promet une utilisation responsable.
Et nous vous garantissons que ce véhicule et ce matériel seront bien utilisés, bon escient, jusqu'à son expiration peut-être usuelle.
C'est en février dernier que le comité de pilotage du Fonds national RED a validé pour 4 millions de dollars le document de programme soumis par le PNUD portant sur la réforme de l'aménagement du territoire en RDC.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Comme annoncé dans le sommaire, l'échéance de la clause de cessation du statut de réfugié pour le Rwanda a été fixée au 31 décembre 2017. Selon le ECR, environ 18 000 réfugiés rwandais ont été rapatriés au cours de cette année dans le cadre des opérations du rapatriement volontaire, alors que les répertoires en cette fin d'année renseignent que près de 223 000 autres réfugiés vivent encore sur les territoires congolais. Alors dans cette rubrique, le MAG-UN reçoit Olivier Beer. Olivier Beer est le représentant régional assistant chargé de la protection OACR RDC. Il s'entretient avec Honoré Musenga-Kalala sur la problématique de cette clause. Suivez.
Monsieur Olivier Beer, bonjour. Bonjour. Combien de réfugiés rwandais se trouvent encore sur le territoire de la RDC en cette fin d'année et quelle est leur situation?
Selon les dernières estimations du gouvernement, il y a près de 223 000 réfugiés rwandais en République démocratique du Congo, principalement dans le nord et le sud Kivu, mais aussi dans d'autres provinces comme le Tanganyika, le Kasaï oriental, à Kinshasa, à Lubumbashi et ailleurs. Sur ces 223 000 réfugiés rwandais, 42 000 environ ont été biométriquement vérifiés par la Commission nationale des réfugiés avec le support du HCR. Alors, ces personnes ne vivent pas dans des camps, ne reçoivent en général pas d'assistance de la communauté internationale, mais nous pouvons de temps en temps leur donner un appui pour une activité génératrice de revenus ou s'ils désirent se rapatrier. Il y a un rapatriement des réfugiés rwandais qui le souhaitent vers le Rwanda depuis 1999 et qui, ces derniers temps, ces derniers mois, a connu un certain engouement. Par exemple, rien qu'en 2017, le HCR a rapatrié près de 18 000 réfugiés rwandais au Rwanda, ce qui est plus que dans tous les autres pays de la région.
Alors, M. Olivier, il y a une clause de cessation du statut de réfugié pour le Rwanda qui est en vigueur depuis 2011 d'abord pour la compréhension du commun des mortels. Comment comprendre ce concept? C'est quoi une clause de cessation du statut de réfugié?
Bon, je vais essayer d'expliquer cela simplement. Un réfugié est une personne qui a fui son pays parce que certains événements l'ont poussé à fuir pour sauver sa vie. Et puis un jour, la situation dans ce pays peut changer, et les raisons qui ont poussé cette personne à fuir, la guerre, un conflit, n'existent plus. Et dans ce cas-là, on peut décréter une clause de cessation du statut de réfugié, c'est-à-dire que cette personne ne sera plus considérée comme un réfugié. Cette clause de cessation découle de l'article 1C de la Convention relative au statut de réfugié de 1951, mais on la trouve aussi à l'article 1.4 de la Convention de 1969 de l'Organisation de l'Unité africaine qui régit les aspects propres au problème des réfugiés en Afrique.
Et qui décrète cette clause? C'est le HCR, le pays d'accueil ou le pays d'origine?
Le HCR peut décréter cette clause, mais également les États qui peuvent publier des déclarations officielles de cessation générale du statut de réfugié pour un groupe particulier lorsqu'ils pensent que les circonstances qui ont entraîné la fuite des réfugiés n'existent plus.
Et dans le cas des réfugiés rwandais, qui a décrété cette clause?
C'est le HCR. Et certains pays l'ont également invoqué, mais il faut savoir que la République démocratique du Congo n'a pas invoqué cette clause de cessation. Elle n'est donc pas d'application en République démocratique du Congo. Cette cessation, telle que définie dans les articles 1C et 1C6, ne nécessite pas le consentement du réfugié ou une action de la part du réfugié. La cessation du statut de réfugié met juste fin aux droits associés à ce statut. Parce que lorsque vous êtes réfugié, vous avez un certain nombre de droits, vous bénéficiez de la protection internationale. Lorsque vous perdez ce statut, vous perdez ces droits-là, mais pas ceux que vous avez en tant qu'être humain, bien entendu.
Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir comme contenu de cette clause concernant les réfugiés rwandais?
Comme vous le savez, en 1994, suite au génocide qui a eu lieu au Rwanda, plus de 3,5 millions de Rwandais sont devenus des réfugiés, dont la plus grande partie est venue ici en République démocratique du Congo. Et puis il y a eu d'autres réfugiés suite aux affrontements armés dans le nord-ouest du Rwanda en 1997 et 1998. Alors en octobre 2009, le HCR avait annoncé une stratégie visant à mettre fin à la situation des réfugiés rwandais qui avaient fui leur pays avant le 31 décembre 1998. Et cette stratégie que le HCR avait annoncée comprend toujours quatre volets. Le rapatriement volontaire, que nous sommes en train de faire, l'intégration locale pour ceux qui ne veulent pas rentrer chez eux, le maintien du statut de réfugié pour un petit groupe qui ont encore besoin d'une protection internationale, ce sont ceux qui sont exemptés de la clause de cessation, et enfin l'invocation de cette clause de cessation par les pays qui reçoivent des réfugiés rwandais. Et comme je l'ai dit, certains pays ont invoqué cette clause de cessation, par exemple la République du Congo voisine, mais la République démocratique du Congo, parce qu'elle a un contexte particulier, c'est elle qui a reçu le plus grand nombre de réfugiés, il faut donc plus de temps pour trouver des solutions, elle n'a pas encore invoqué la clause de cessation.
Tant que la République démocratique du Congo n'a pas encore invoqué cette clause, cela veut dire que le statut de réfugié est encore applicable aux Rwandais qui sont sur le sol congolais.
Tout à fait. Après le 31 décembre 2017, soit au 1er janvier 2018, les réfugiés rwandais qui se trouvent en République démocratique du Congo sont toujours, aux yeux de la République démocratique du Congo, des réfugiés qui continueront à bénéficier de la protection de la République démocratique du Congo. Donc rien ne se passera pour eux. J'ai entendu dire par certains que le 1er janvier 2018, ils allaient perdre leur nationalité, ils allaient perdre leur statut. Non, rien de cela ne se passera pour eux en République démocratique du Congo.
Alors il faut vraiment faire une nette distinction entre les réfugiés et les combattants, FDLR notamment.
Oui, tout à fait, parce que des fois j'entends aussi des personnes qui parlent de réfugiés armés. Non. À partir du moment où un réfugié prend une arme, il n'est plus considéré au regard du droit international des réfugiés comme un réfugié. Les réfugiés sont toujours des civils. Les FDLR, les groupes armés, ne sont pas des réfugiés. Et en fait, les réfugiés sont même victimes de ces groupes armés. Certains d'entre eux qui viennent dans nos points de rassemblement pour retourner au Rwanda ont peur. Ils ont peur de ces FDLR. Les Congolais ont peur des FDLR. Les Rwandais, réfugiés, civils, ont aussi peur des FDLR. Donc vous avez très bien fait de le souligner. Il faut que l'on fasse la part des choses entre les combattants, les groupes armés qui font malheureusement du mal, et les civils qui sont les victimes des groupes armés, pris en otage par les groupes armés.
Oui, alors par rapport à tout ça, comment le HCR, votre agence, voit-il la perspective de la problématique des réfugiés rwandais en République démocratique du Congo?
Nous savons que le dialogue entre la République démocratique du Congo et le Rwanda permettrait de trouver une solution pour les réfugiés rwandais. Soit que ceux-ci retourneront chez eux, comme ça se fait en ce moment, il y a un rapatriement qui prend cours, soit certains d'entre eux souhaiteront rester en République démocratique du Congo, et cela se fera au cours d'un dialogue entre le gouvernement de la RDC, le gouvernement du Rwanda et le HCR, dans des réunions qu'on appelle des réunions tripartites.
Et la prochaine réunion peut être envisagée pour quel moment ?
Le gouvernement de la République démocratique du Congo a fait une demande à la République du Rwanda pour qu'une telle réunion ait lieu. Nous attendons tous la réponse du gouvernement rwandais, mais nous espérons que début 2018, cette tripartite pourra avoir lieu.
Monsieur Olivier Beyer, merci.
C'est moi qui vous remercie.
La RDC a enregistré plus de 50 000 cas de choléra en 2017. Il s'agit, selon l'UNICEF, du nombre le plus élevé que les pays aient connu depuis l'épidémie de choléra de Goma, il y a plus de 30 ans, suite à l'afflux massif de réfugiés rwandais. Le choléra est endémique dans de nombreuses régions de la RDC, en particulier dans l'est du pays. Il touche aussi de plus en plus de nouvelles zones, suite aux conflits et aux mouvements des populations, entre autres dans la province du Tanganyika et du Sud Kivu. Au Sud Kivu, le nombre des cas de choléra a doublé entre 2016 et 2017. Le choléra est également apparu au centre du pays, dans la région du Kasaï, ainsi que dans l'ouest du pays, entre autres dans la province du Congo central. La réponse demande la mobilisation de plus de fonds par les bailleurs. Et puis le 13 décembre dernier, le gouvernement congolais et la FAO ont évalué leur engagement pendant l'exercice 2013-2017. Le cadre de programmation pays 2013-2017 a donc été au centre de cette évaluation. Les échanges entre les experts de parties prenantes ont tourné autour de trois domaines prioritaires retenus par le document, dont l'objectif est d'éliminer durablement la faim et la pauvreté en RDC. Il s'agit donc de l'amélioration de la gouvernance des secteurs de l'agriculture, du développement rural, des ressources naturelles et environnementales. Les experts ont également examiné le développement des filières végétales, animales et halieutiques par l'approche des chaînes de valeur et l'agro-business. Et enfin, la protection de l'environnement et la lutte contre les changements climatiques. Justice pour terminer, à Fertouma Lubanga, le 15 décembre dernier, la chambre de première instance de la CPI a rendu une décision fixant à 10 millions de dollars américains le montant des réparations collectives en faveur des victimes des crimes de guerre commis par M. Lubanga, à savoir la conscription, l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les groupes armés UPC, FPLC et le fait de les avoir fait participer activement à des hostilités.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
2 millions d'enfants malnutris en RDC, dont plus de 400 000 candidats à la mort dans le Kasaï selon l'UNICEF. Les chiffres sont alarmants et à la fois dramatiques. Quelles sont les causes et les voies explorées pour sauver ces enfants malnutris? Pour en parler, Magyuen reçoit Madame Inès Saint-Lesama et les chefs de section nutrition à l'UNICEF RDC. Elle répond ici aux questions de Jean-Pierre Lally. Coucou.
Inès Lesama, bonjour.
Bonjour.
Selon l'UNICEF, au Kasaï, 400 000 enfants malnutris, candidats à la mort en 2018, si rien n'est fait. Et sur tout le pays, il s'agirait de 2 millions d'enfants. Alors, quelle en est la cause?
Effectivement, la situation nutritionnelle des enfants dans les pays est assez difficile. On a beaucoup d'enfants qui souffrent de ce type de malnutrition, qui est la malnutrition aiguë sévère. 2 millions dans tous les pays. Et on sait que parmi les causes, c'est le manque de nourriture en termes de quantité mais de qualité de la nourriture. Mais aussi parfois il y a des infections, des maladies, le manque d'hygiène, d'accès à l'eau, la pauvreté en général. Et surtout quand les ménages sont dans des situations de choc dans lesquelles ils doivent changer leurs habitudes. Ils n'ont plus accès aux services de santé, ils n'ont plus accès à la nourriture. Donc c'est des ménages qui déjà sont déjà très vulnérables à la base, qui n'ont plus rien à donner à leurs enfants, ils ne peuvent pas guérir de leur maladie. Donc ça fait que les enfants, finalement, ils tombent dans ce type de malnutrition qui a des risques énormes en termes de décès.
Vous avez parlé de ces chiffres, mais certains observateurs pensent que c'est un échec dans l'appui que l'UNICEF apporte au gouvernement congolais dans ces domaines précis des enfants malnutris.
Je ne pourrais pas dire que c'est un échec. En réalité, si on évalue ce qui a été fait jusqu'à maintenant par l'UNICEF, ses partenaires, mais pas le gouvernement lui-même, la nutrition n'a pas été parmi les priorités du développement, si je peux dire. C'est un secteur qui a été sous-financé pendant très longtemps.
Par le gouvernement?
En général, le financement de tous les partenaires et des gouvernements a été insuffisant. Les efforts de tous a été insuffisant et ça, il faut qu'on l'avoue. C'est pour ça qu'on a fait un appel à l'action à l'heure actuelle. À titre d'information, en 2017, parmi le nombre d'enfants malnutris aigus sévères qui sont attendus dans l'année, on a pu traiter seulement, tous les partenaires confondus, 10% de ces enfants. Cela veut dire que nos efforts sont complètement insuffisants et qu'il faut faire un appel à l'action de nous tous, pas seulement en termes de mobilisation des ressources pour pouvoir traiter des enfants, mais il est temps aussi qu'on fasse un focus sur la prévention. On dit souvent il vaut mieux prévenir que guérir, tel est le cas pour la malnutrition. Donc il faut aider ces ménages à être moins pauvres, aider ces ménages à avoir accès à la nourriture de qualité, aider ces ménages à avoir l'accès à la santé, avoir l'accès à l'eau, à l'hygiène. Donc c'est toute une série d'interventions qu'il faut faire et c'est pour ça qu'on n'est pas encore dans une situation dans laquelle on peut dire que nos efforts ont été conséquents, puisque on voit que effectivement, on n'a pas mis tout ce qu'il fallait pour réduire la malnutrition.
Il y a beaucoup d'efforts à faire. Quels sont alors les projets de l'UNICEF en la matière pour 2018?
Oui, en fait, l'UNICEF compte faire avec ses partenaires en 2018, et tel est le cas maintenant avec l'appui de certains bailleurs, augmenter le nombre de ces enfants malnutris aigus sévères qui ont un accès aux services de santé à travers la dotation des aliments thérapeutiques qui doivent être disponibles au niveau des centres de santé pour que ces enfants, une fois ils arrivent et ils sont déjà malnutris, ils sont malades, ils puissent être traités de manière appropriée. Donc ça, c'est un effort conséquent qui a été fait fin 2017 pour que 2018, on puisse accroître ce nombre d'enfants qui ont accès à des services de nutrition.
Mais notre volet, c'est les problèmes de l'appui des partenaires. L'UNICEF affirme n'avoir obtenu en 2017 que 15% du financement des besoins nutritionnels des enfants dans la région du Kasaï, par exemple. Cela veut dire que vous n'avez pas assez mobilisé auprès des donateurs. Vos stratégies de plaidoyer sont à repenser pour aujourd'hui.
Ce que je peux dire, comme je l'ai dit tantôt, c'est que le secteur de la nutrition n'a pas été prioritaire. Il y a eu beaucoup d'actions qui ont été financées, supportées par des bailleurs et des partenaires dans différents secteurs, mais la nutrition, pas de manière conséquente. Cela ne veut pas dire que la situation actuelle, c'est parce que le plaidoyer n'a pas été important. Je pense que le plaidoyer ces dernières années a été quand même assez solide. Il y a une voie commune de tous les partenaires et c'est pour ça qu'on avait lancé le mois d'octobre avec le ministre de la Santé le narratif commun de la nutrition dans lequel tous les partenaires, tant les bailleurs comme les agences des systèmes de la Nations Unies comme les ONG avec le gouvernement, on dit on est ensemble, on a une seule voix, on veut la même vision, c'est réduire la malnutrition chronique mais aussi traiter le maximum de nombre de cas de malnutrition aiguë sévère.
Inès Les Amaro, l'un de vos partenaires c'est la coopération britannique. L'UNICEF vient de bénéficier de ses partenaires de 12 millions de livres sterling, environ 15 millions de dollars américains, pour répondre justement à la malnutrition dont souffrent les enfants de la RDC. Comment alors ces fonds vont-ils être utilisés?
Oui, grâce à l'appui effectivement des bailleurs comme l'appui britannique, UK, donc on pourra faire possible en 2018 plus de 130 000 enfants malnutris aigus sévères qui puissent avoir accès à un service de nutrition, à un aliment thérapeutique, à un service de médecin et de personnel de santé qui peut traiter ces cas de malnutrition. Comment cela va être fait à travers les partenariats avec des partenaires des mises en œuvre et beaucoup d'ONG qui travaillent déjà dans les pays qui vont assurer qu'il y a un dépistage précoce de ces enfants déjà dans la communauté. Mmh. Il faut qu'on identifie rapidement ces enfants et qu'ils puissent être référés vers les centres de santé. Il faut dire aussi que grâce à la contribution aussi des UKAID, on ne va pas être seulement dans la zone des Kasaï, on va élargir l'appui au moins dans 10 provinces, chose qui est très importante puisque le nombre de cas il est bien grand partout. Ce n'est pas seulement spécifique dans les situations des Kasaï.
Pour terminer, qu'est-ce que vous pensez, Inès, d'une approche qui serait conjointe avec d'autres agences des Nations Unies telles que la FAO, notamment dans les domaines agricoles?
Mais tout à fait, c'est ça en fait le but de notre action. Comme agence aussi, c'est de travailler avec les agenceurs, notamment la FAO, mais aussi le Programme Alimentaire Mondial et l'OMS et l'UNFPA, et à travers des actions communes pour réduction de la malnutrition dans ces pays. Ces deux dernières années, on a fait pas mal d'efforts, un plan d'action conjointe des agences pour la nutrition en RDC, dans lequel chacun, avec son avantage comparatif, sa mission qui est complémentaire, définit des actions qu'ils vont mener. Donc il y a des actions des différentes agences et après dans des actions conjointes dans lesquelles on s'est dit cette action, on doit la mener de manière conjointe.
Inès Les Amaro, et je vous remercie.
Merci à vous pour l'intérêt.
Le général Ismaël Sarr, commandant adjoint de la police de la MONUSCO UNPOL, a effectué cette semaine une mission de 3 jours à Kalemie dans la province du Tanganyika. Objectif, évaluer le niveau de collaboration entre UNPOL et les autres composantes de la mission onusienne, d'une part, et d'autre part, entre UNPOL et la PNC, la police nationale congolaise. Concernant les relations entre la PNC, le MAG-UN revient sur ce qu'a déclaré le général Sarr au micro d'Expédie Mwamba Mubi.
En ce qui concerne la protection des civils, qui est le volet dans lequel nous sommes le plus impliqués, tout se passe très bien à travers des patrouilles conjointes avec les autres forces de sécurité et de défense, mais à travers surtout la stratégie opérationnelle de lutte contre l'insécurité à Kalemie, une nouvelle stratégie opérationnelle pour véritablement faire face à l'insécurité en zone urbaine, mais aussi à l'insécurité dans les secteurs ruraux. Et donc, des échanges que j'ai eus, il ressort donc que véritablement nos deux forces interchangent et interfèrent dans la protection des civils et que les résultats, bien sûr, ne sont pas globalement appréciables à tous les niveaux, mais dans tous les cas de figure, la police ici est réconciliée avec la population. La confiance revient petit à petit si on en juge par les résultats enregistrés au niveau de l'alerte précoce qui a permis à la SOLI de se déployer à l'intérieur de Calémie.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Alors je vous invite à suivre cette question relative aux réparations collectives pour les victimes dans l'affaire Thomas Lubanga et la réponse de Patrick Tshibui du bureau de la Cour pénale internationale RDC.
Dans l'affaire Thomas Lubanga, il faut 10 millions de dollars pour les réparations collectives. Alors à qui le fonds serait destiné? Comment va se passer la distribution de ce fonds à ces nombreuses victimes? Et puis qui va gérer le fonds? Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour cette question. Ce qu'il faut retenir par rapport à cette décision qui a été rendue, c'est que la mise en œuvre de ces décisions sera faite par le fonds en profit des victimes. Mais comme vous le savez très bien, Thomas Lubanga est indigent. Donc les réparations collectives qui ont été accordées aux victimes dans cette affaire seront mises en œuvre par le fonds en profit des victimes. C'est la raison pour laquelle dans la décision qui a été rendue, les juges ont demandé au fonds de voir dans quelle mesure ils pourraient faire des efforts supplémentaires pour ce qui est du montant alloué, justement en voyant comment on peut avoir un peu plus de donations. C'est aussi l'occasion d'en profiter pour dire aux médias qu'il est possible à travers vos réseaux des médias de pouvoir encourager les uns les autres à pouvoir contribuer au fonds au profit des victimes, parce que les donations sont des donations volontaires qui sont faites par des États, par des individus ou par autres, et c'est en fonction de ces donations que le fonds au profit des victimes peut faire face aux réparations lorsque l'accusé est reconnu coupable et reconnu indigent. Tel est le cas de monsieur Thomas Lubanga.
Magazine des Nations Unies, portrait du jour.
Je suis Clément Chimanga Loabala. J'ai commencé ma carrière professionnelle dans une entreprise au nom de Satelcom. Et de là, j'ai quitté pour embrasser Number One et également une entreprise toujours sur la vente des véhicules. Et de là, j'ai quitté pour commencer à Radio Capi où je suis technicien en informatique, dans les départements de la technique bien sûr. Et mon cursus, j'ai fait mes études à l'école Les Compagnons à Limité, à l'école supérieure de formation de cadre enseignement appelé Pigé à Gombe. Mon travail consiste généralement à assister les utilisateurs sur l'outil informatique, que ce soit du côté logiciel ou matériel, assurer les déménagements des utilisateurs, recevoir quotidiennement les appels des utilisateurs, écouter les problèmes posés, analyser, assister téléphoniquement ou parfois physiquement si nécessaire, et je dirais réparer des machines, préparer des machines pour installer et parfois même dispenser des formations aux utilisateurs sur l'utilisation de certains logiciels. En dehors de cela, je résous également des problèmes, des bugs fréquents d'application et assurer parfois l'installation des logiciels et des équipements informatiques, faire la maintenance des applications, je dirais mise à jour des antivirus et organiser par moment la formation sur l'utilisation de certains logiciels nouvellement acquis, intervenir et trouver des solutions aux divers problèmes utilisateurs. Il m'arrive parfois de faire régulièrement le remote control des imprimantes pour connaître l'état exact des cartouches en vue de les remplacer lorsqu'elles sont épuisées. Configurer également ou faire les mappages des imprimantes sur les profils des utilisateurs, ainsi que la configuration Outlook. Je dirais en gros, mon travail consiste à assurer le bon fonctionnement de l'outil informatique au sein de la Radio Capi. Voilà. Mon temps libre, généralement les week-ends lorsque je suis à la maison, je prends 2 ou 3 heures à pouvoir faire mes documentations, je me documente, excepté peut-être les responsabilités qu'on peut avoir peut-être à l'église ou différents programmes qu'on peut avoir, mais je ne manque pas de passer au moins 2 heures ou 3 heures du temps devant la machine pour lire mes tutoriels, pour me documenter davantage, essayer un peu d'approfondir mes connaissances. Ce que je fais tous les matins, c'est la marche, et j'ai fait également des exercices physiques les matins pour essayer un peu de bien entretenir mon corps. Mes préférences, j'aime le foufou, au pondou et au poisson, voilà. L'avenir, ce que j'envisage, c'est de devenir un administrateur en réseau informatique et de créer également, je dirais, une société de transport à Kinshasa. Cela va quand même assurer le transport à tous les Kinois et à tous les Congolais, voilà. Donc, je vous remercie.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Kapi.
Le 25 décembre, Noël, c'est la fête de nativité qui est reconnue par les Nations Unies. Alors à tous ceux qui fêtent, joyeux Noël. Et voilà ce qui met un terme à notre magazine des Nations Unies qui vous a été présenté par Tina Salama, à la mise en onde Bob Landou, à la coordination reportage Jean-Pierre Lali Coco, au reportage également Honoré Missenga, Martin Sebjango l'a supervisé. Alors on souhaite à tous un très joyeux Noël encore une fois, et puis meilleurs vœux pour 2018. À bientôt sur Radio Kapi. Ciao.